Les mages dont nous parlons traditionnellement dans ce premier dimanche de l'année, les mages sont vus habituellement comme étant les païens qui découvrent le Christ. En effet, dans Luc, ce ne sont pas des mages mais des bergers qui adorent Jésus. On dit d'habitude, voilà, dans Luc, c'est les juifs qui découvrent Jésus et dans Matthieu, c'est l'histoire des païens qui découvrent le Christ, donc de gens qui ne sont pas juifs. Alors moi, ça m'intéresse particulièrement parce que nous ne sommes pas nécessairement juifs et la plupart d'entre nous n'avons pas une grande connaissance du monde juif. Donc en fait, nous sommes des païens pour la plus grande partie d'entre nous. Alors, on dit que les juifs attendaient le Messie et que Jésus a accompli cette attente messianique, cette attente du Messie attendue par les juifs. Est-ce que vraiment vous avez de bons souvenirs de votre école biblique et vous savez exactement ce que représentait cette attente du Messie? Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est pas vrai, c'est pas grave. On a les mages pour se rattraper. De même que tout à l'heure, je vous ai lu ce magnifique texte qui est en fait la préfiguration de ce récit des mages d'Ésaïe 60. Long texte, très beau. Est-ce que vous le connaissiez ? Peut-être, peut-être pas, mais je vais vous dire, si vous ne le connaissiez pas, pour une fois, ça n'est pas grave, puisque justement, je pense que les mages ne le connaissaient pas. Et ces mages, qui étaient des prêtres babyloniens, n'avaient certainement aucune connaissance de l'attente messianique des Juifs, des textes d'Ésaïe ou d'autres choses. Donc en fait, ils sont comme nous. Alors je propose justement de lire cette histoire, non pas comme un texte historique. Est-ce que vraiment il y a eu des mages qui sont venus et tout ça, c'est une autre question. Mais comme notre propre histoire, comment nous pouvons, nous, en tant que païens et ne connaissant pas tout de la bonne théologie d'Israël, comment pouvons-nous découvrir quelque chose de merveilleux dans le Christ? Et la base de cela, vous l'avez bien entendu dans le texte, c'est une histoire d'étoile. C'est une étoile qui fait tout le travail, c'est elle qui les met en mouvement et qui finalement va les accompagner jusqu'à Jésus. Mais cette étoile, elle les met en route, en fait, parce que déjà au départ, ils attendaient quelque chose. Ils cherchaient quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils cherchaient? Je dirais peu importe. Apparemment, on dit le texte, ils cherchaient le roi des Juifs, ils cherchaient un roi. Donc je pense que ce qu'ils attendaient, c'était quelque chose ou quelqu'un d'extraordinaire, de puissant, capable de dominer, de donner la victoire, d'assurer la paix. C'est ça qu'on attendait de la part d'un roi autrefois. Et donc ils avaient une attente, et je crois que c'est la chose la plus essentielle. Parce que nous, en fait, que cherchons-nous et qu'attendons-nous? Est-ce qu'il y a dans notre vie une attente, une espérance de quelque chose? Si on ne cherche rien, si on ne fait que subir, si on est passif dans sa vie, alors on ne trouve rien et on ne fait que subir jusqu'à sa mort. Ce qui fait que, finalement, même si c'est un peu païen, je le concède, les vœux de bonne année sont une bonne chose. Parce que au lieu de déplorer l'année passée en disant « Oh, ça a été compliqué, il y a eu ci, il y a eu ça », eh bien, on se tourne vers l'avenir. Et on dit, eh bien, j'ai des vœux et j'ai des souhaits. Et avoir des vœux et des souhaits, ce n'est pas se présenter comme passif par rapport à ce qui peut arriver, mais c'est être dans le désir. Et je crois que le désir est le moteur de la vie. Et le désir, quand je dis désir, ce n'est pas la frustration de ce que l'on n'a pas, si vous voulez. C'est pas de dire, j'aimerais ça, mais je ne l'ai pas. Mais c'est le désir qui est comme une mise en avant, une mise en mouvement, c'est la motivation dans sa vie de vouloir vivre, de vouloir avancer, de vouloir vivre mieux, de vouloir vivre plus intensément. Et je crois que c'est essentiel. Donc oui, vive le désir et vive les vœux, je dirais, d'année. Peut-être qu'on n'a pas les bons désirs, peut-être qu'on n'a pas les bons vœux, je n'en sais rien. Les mages, sans doute se trompaient-ils aussi dans leurs désirs et dans leurs vœux, mais ils étaient tendus vers quelque chose qu'ils espéraient ardemment, et c'est essentiel. Alors nous, quel est notre désir le plus profond? eh bien, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Ce n'est certainement pas de tout avoir, mais c'est de trouver la tranquillité d'esprit, d'avoir une vie harmonieuse et de se savoir aimé et de pouvoir aimer. Finalement, c'est tout ce que nous demandons. Alors les mages, ils ont là une première idée assez astucieuse à mon avis, c'est qu'ils cherchent un roi, c'est-à-dire un guide. Ils se disent, j'aurais besoin de trouver quelqu'un qui puisse m'aider à trouver cela, qui puisse diriger ma vie, donner sens et orienter. C'est-à-dire que les mages, en attendant ce qu'ils appellent le roi des Juifs, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas trouver tout seuls quelque chose qui puisse combler leur attente. Et là, ils ont raison. Parce que je pense qu'on ne peut pas tout réinventer dans ce monde. Et en fait, la force de l'humanité, c'est de savoir utiliser ce que d'autres, plus géniaux que nous, ont trouvé à notre place. Et regardez bien, toute votre vie n'est faite que de l'utilisation de choses que vous auriez été incapable d'inventer. Je dirais, mon téléphone, comment ça marche? Je n'en sais rien. Internet, où ça va? Je ne sais pas. Ma voiture, serais-je capable, sur une île déserte, de créer une voiture? Non. L'électricité, qui l'a inventée? Je n'en sais rien. Tisser un vêtement, j'en suis incapable. En fait, je suis incapable de tout. Et je profite, je profite des meilleurs. Je veux une belle robe de pasteur, je m'adresse à ceux qui savent faire. Je veux un bon téléphone, je m'adresse à ceux qui font des bons téléphones. Je veux une belle montre à ceux qui font des belles montres, une bonne voiture, etc. Et alors, pour ce qui est de faire votre vie personnelle, certains se disent, moi je vais bricoler moi-même et me débrouiller tout seul avec mes petites pensées du bord. Je crois que c'est un peu idiot. On ne peut pas tout inventer soi-même. Et donc, j'ai la même exigence à l'égard du projet de ma vie, à l'égard de ce qui peut m'aider à avancer, à trouver ces merveilles que je cherche, à trouver la lumière, la paix, l'espérance, la vie, l'amour. Je me dis, il me faut un spécialiste. Je veux le meilleur spécialiste. Voilà, c'est ça. Parce que tout seul, vous retourneriez à l'âge des cavernes, mais même l'âge des cavernes, vous seriez incapable. Êtes-vous capable d'allumer un feu sans un briquet? Non. De chasser un bison? Non. Donc vous êtes même plus bête qu'un homme ou qu'une femme des cavernes. Bon, alors, un peu d'humilité, et dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Alors, je veux le meilleur. Et les mages ont raison. Ils disent, je veux un roi, un king dans cette affaire. Je veux le meilleur. Comment je vais le trouver? Alors, c'est pas facile à trouver, et donc ils veulent le chercher, ils se disent, j'aimerais moi trouver quelqu'un à qui je puisse me fier. D'ailleurs, dans fier, il y a le mot foi. Quelqu'un à quel saint je vais pouvoir me vouer, à quelle théorie, quelle religion, quelle philosophie m'a donné qui pourrait m'aider à grandir. Alors, comme les mages, peut-être qu'on est un peu dans le noir parfois, mais je vais vous dire, moi, j'ai trouvé. Et le meilleur spécialiste que j'ai trouvé, c'est le Christ. Voilà. Donc, je vous dis, petit tuyau, bonne adresse. Il y a un message absolument formidable, capable de vous aider là-dedans. À mon avis, c'est le top, parce que c'est dans tous les, la panoplie des messages et des discours religieux. C'est celui qui, pour moi, a le plus de paix, le plus de réalisme aussi, le plus de choses extraordinaires permettant de vivre heureux pour soi et heureux en société, et qui est le plus beau programme pour l'humanité en général. Donc moi je vous dis, je pense que j'ai trouvé, c'est la prédication du Christ. Voilà. Donc je vous dis, j'ai trouvé mon spécialiste et je suis un adepte du Christ. Mais alors les mages, comment ils s'y prennent? Les mages, c'est intéressant parce que ils cherchent avec une étoile. Ça, c'est assez étonnant, parce que les étoiles, c'est absolument condamné par la Bible. La Bible dit à plusieurs reprises que l'astrologie, que de croire dans les étoiles, de découper les machins, de faire des présages, c'est une abomination. Et la Bible est absolument contre, c'est toutes ces espèces d'espérances astrologiques. Mais les mages, c'étaient des Babyloniens. Je vous l'ai dit, n'étaient pas juifs. La Bible, ils ne la connaissaient certainement pas. Et donc eux, les Babyloniens, étaient astrologues. Ils croyaient dans les astres et dans les présages, les machins comme ça. Et donc les mages, eh bien, ils croient dans les astres. Alors ils cherchent avec ce qu'ils avaient à la base, c'est-à-dire avec leur astrologie païenne. Donc les mages cherchent mal, c'est ça que je veux dire. Et finalement, c'est pas grave, parce qu'ils vont trouver quand même. Alors ça, pour moi, c'est extrêmement rassurant. Parce que souvent, certainement que moi aussi, je cherche mal. Et nombre de fois où je vois des paroissiens, des fidèles qui disent « Ah, monsieur le pasteur, mais certainement que je ne crois pas comme il faut, certainement ma foi n'est pas bonne, ma pratique n'est certainement pas juste, je ne suis pas un bon paroissien, je ne suis pas un bon protestant, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas une bonne père, un bon père, une bonne mère, une bonne épouse, une bonne ce que vous voulez. » Eh bien, n'ayez pas peur, les mages avaient tout faux et pourtant ils trouvent Jésus. Ça veut dire que peut-être pas tous les chemins mènent à Rome, mais en tout cas, il y a des tas de chemins mauvais qui peuvent tout à fait conduire vers Jésus. Et en fait, eux, ils ont juste cherché comme ils étaient, avec ce qu'ils savaient faire. Et donc, peu importe la méthode, je dirais, peu importe nos hérésies, peu importe nos paganismes, peu importe même parfois nos attachements superstitieux peut-être à une chose ou à une autre, l'important, c'est de ne pas se tromper d'objet de recherche et ensuite de faire ce qu'on peut. Alors certes, les mages sont des idolâtres, et ils sont quand même de bons exemples parce que finalement, ils vont réussir à, disons que leur erreur avait au moins un avantage, c'était de ne pas les arrêter, mais de les mettre en mouvement pour chercher toujours plus loin et ailleurs. Et donc tout ce qui vous fait chercher plus loin, c'est bon en soi. Donc oui, l'étoile était juste un prétexte en fait à chercher et à continuer à chercher. Si vous lisez bien l'histoire, vous avez vu que l'étoile ne les conduit absolument pas à Jésus. Donc une fois de plus, l'étoile est inefficace si vous voulez. Les mages suivent l'étoile, ils sont complètement perdus, ils arrivent à Jérusalem, ce qui n'est absolument pas le bon endroit. Et là, ils vont demander aux théologiens, aux prêtres, aux scribes, ils vont leur dire « Mais c'est où qu'il faut aller ?» Et ça, j'ai déjà prêché dessus, je vous le résume, mais j'aime beaucoup cette histoire parce que, en fait, les prêtres de Jérusalem, qui est l'équivalent de nos pasteurs ou de nos théologiens d'aujourd'hui, ils savaient très bien où était Jésus. Et ils disent « Mais oui, on sait où il est, c'est à Bethléem. » Mais eux n'y vont pas. Alors là, je trouve, arriver à mettre en une phrase à la fois la plus grande dignité du ministère de théologien et en même temps la plus grande critique qui soit, c'est merveilleux. De dire, vous savez, les théologiens et les gens d'église comme moi, eh bien en fait, ils savent où est Jésus. Et donc, écoutez-les, parce qu'ils peuvent vous aider à le trouver. Ils peuvent vous donner le bon chemin pour y aller. Ils peuvent vous dire, voilà, c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut sauver votre vie. Mais ces théologiens, souvent, ils sont incapables d'y aller eux-mêmes. Et donc, écoutez ce que dit votre pasteur et surtout, ne faites pas ce qu'il fait lui. C'est-à-dire, ne le prenez pas comme exemple. Mais écoutez-le, même si lui n'est pas un bon exemple, peut-être que ce qu'il dit n'est pas entièrement idiot. Alors ensuite, donc, ils vont à Bethléem et là, ils trouvent Jésus et on dit que l'étoile s'arrête. Pour moi, l'étoile s'arrête et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'étoile, l'étoile disparaît. On peut le comprendre en disant que dès qu'ils ont trouvé Jésus, ils sont libérés de l'astrologie. Je dirais, ils arrêtent l'étoile comme quelqu'un dit « j'arrête de fumer, j'arrête de boire ou j'arrête la télé ». Ils arrêtent l'étoile. Plus besoin de ça, ils sont libérés de l'astrologie et ils découvrent le Christ. Et ils rentrent chez eux par un autre chemin, c'est-à-dire qu'ils reviennent chez eux. Donc Jésus ne nous demande pas d'aller sur une autre planète, d'être différent de ce que nous sommes. Ils sont babyloniens, ils retournent à Babylone, mais ils reviennent changés. Certainement un peu moins riches de trésors, mais ils sont changés et libérés de leur superstition. Mais bon, je dis du mal de l'étoile j'aurais pu en dire du bien. Parce que finalement, si on prend d'un point de vue symbolique, l'idée de chercher une étoile dans la nuit, c'est plutôt une bonne idée. Parce que, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup l'image de l'étoile qui brille dans la nuit. Et pas seulement parce que c'est le nom de notre temple ou de notre église. Certes, ici, c'est l'église de l'étoile, mais en fait, j'aime beaucoup cette image de l'étoile qui brille dans la nuit parce que je la trouve tellement représentative et imagée de ce qu'est la foi que j'ai pas d'image vraiment meilleure que ça à proposer. En effet, une étoile qui brille dans la nuit, eh bien, c'est lorsque l'on est dans la nuit, nuit qui peut être celle de la difficulté, du doute ou du noir, effectivement, quand on broie du noir, de la tristesse, du découragement, de la peur, de tout ce que vous voulez, eh bien, au milieu de cette nuit, on peut chercher une source de lumière et en fait, tout ce qu'on trouve, c'est une étoile. Alors une étoile, ça ne suffit pas du tout à éclairer la nuit. Ça éclaire même à peu près rien. Mais s'il y a une étoile dans la nuit, je sais que la lumière existe. Et pour moi, c'est ça la foi. C'est dire, je suis environné de noir, je vois une lumière, une étoile, c'est peut-être petit et ténu, mais par là, je sais que le noir n'est pas tout puissant. Je sais qu'il y a de la lumière possible, qu'il y a de la joie possible, que l'amour existe, que la lumière existe, que le beau existe. Et la foi, c'est de dire, je veux croire, non pas dans ce noir majoritaire, mais je veux croire dans cette petite lumière. Et je mets ma foi dans cette lumière et je dis, pour moi, c'est en ça que je crois. Eh bien, c'est ça, cette lumière de la foi, parce que ma foi, elle est comme ça aussi, et ma foi n'est pas un soleil qui illumine toute ma vie, ou pas toujours. Parfois, dans ma vie, j'ai une étincelle de foi. J'ai un moment où tout à coup, je ressens l'amour de Dieu, où j'ai quelque chose qui me donne envie de vivre, qui me donne de la joie, de la confiance. Et ces étincelles, ces moments de foi, eh bien, la vraie foi, c'est de dire, c'est ça en quoi je crois. Voilà. Et je fonde ma vie dessus. Entrevoir quelque chose, comme le dit Paul, où il dit, une phrase que j'aime beaucoup, il dit, nous avons les prémices de l'Esprit. Oui, si vous avez la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie, vous avez de la chance. Mais souvent, nous sommes comme Paul. J'ai les prémices de l'Esprit. J'ai ces trois petits épis de blé, les premiers qui mûrissent et qui me disent, voilà, je crois que il y a quelque chose de possible et je choisis de m'y accrocher. Donc même si le Christ est minuscule dans votre vie, même si votre foi est ténue, grande comme un grain de moutarde, eh bien la foi c'est de s'y accrocher et d'y croire et de chercher, de suivre cette étoile et de dire je vais passer ma vie à courir après cette petite lumière dans laquelle je crois. Alors c'est vrai et c'est plus que cela encore parce que effectivement, quand je dis les prémices, ça laisse supposer que ce premier épi de blé est le premier d'un grand nombre. Et l'étoile, on a souvent dit qu'il s'agissait de l'étoile du berger. C'est-à-dire Vénus, vous savez, la première étoile qui brille si fortement à la fin de la nuit et qui annonce la levée du jour, le lever du jour. L'étoile du berger, on aime ça, et pourtant l'expression ne se trouve pas dans la Bible. Encore qu'on l'aime bien, puisque Jésus c'est le bon berger, donc l'étoile du berger c'est l'étoile de Jésus, tout ça, le symbole fonctionne, mais il n'y a pas d'étoile de berger dans la Bible. Par contre, on parle à plusieurs reprises de l'étoile du matin. On l'a vu en 2 Pierre 1,19 et dans l'Apocalypse. L'étoile du matin, donc cette étoile qui annonce le début du jour. Et ce qui fait que même cette foi dont je vous parlais, cette étoile qui me dit que la lumière existe, ce n'est pas simplement de me dire je crois que, même si le noir est majoritaire, je crois dans cette petite lumière minoritaire. Ma foi, c'est de dire je crois que cette lumière, cette petite lumière, elle annonce la venue de la pleine lumière. C'est-à-dire qu'elle est appelée à grandir et finalement à tout manger le noir, à faire disparaître la nuit. Votre temps d'obscurité est passé, l'épreuve est passée, la tristesse est dépassée, et voici que nous arrivons dans un temps de pleine lumière où la lumière est éblouissante. Voilà pourquoi, peut-être d'ailleurs, on nous dit que l'étoile s'arrête quand il trouve le Christ, non pas qu'il la renie, comme je l'ai prétendu tout à l'heure, mais parce que quand la pleine lumière est arrivée, l'étoile disparaît. Vénus, on la voit la nuit, mais le jour, elle est encore là, en fait, mais vous ne la voyez plus, et vous n'en avez plus besoin, parce que vous êtes dans la pleine lumière. Et le nombre de textes merveilleux dans Ésaïe qui nous disent cela, je vous en ai lu un en Ésaïe 60 qui explique justement tout cela, ou encore Ésaïe 40, « Consolez mon peuple, dites-lui que la paix, sa peine est passée, que tout on arrive dans la plénitude, que tout est donné, que maintenant c'est merveilleux. » Tous ces passages extraordinaires entre Ésaïe 40 et Ésaïe 55, ces textes messianiques sont absolument formidables. Effectivement, je crois qu'on arrive dans la lumière. Mais cette pleine lumière, eh bien, on ne la trouve pas tout de suite. Il y a tout un chemin à parcourir. Il y a d'abord, comme les mages, effectivement, le fait qu'il faille désirer, scruter, interroger, chercher. Et effectivement, tout cela, ce sera le chemin des mages. Et d'abord, comme les mages, il faut avoir le courage de sortir de chez soi. Oui, c'est vrai. Ils quittent leur pays quand même, hein. Ils vont chercher. Il faut sortir de chez soi, il faut se bouger, quoi, comme disent les jeunes. Et il y a de la recherche à faire. Il y a certainement une recherche à faire avec notre méthode, et puis d'abandonner nos vieilles méthodes, comme les mages vont abandonner leurs étoiles. Et puis il y a des théologiens, des spécialistes, des penseurs à interroger, avec lesquels on peut discuter. Et puis il y a à prendre garde aux discours mensongers, trompeurs et pervers, comme celui du roi Hérode qui prétend ceci, cela. Et donc il y a un discernement à faire dans ce que nous entendons. Et puis finalement, il y a à aller tout simplement là où est Jésus, comme une promesse de quelque chose, ce petit enfant, pour l'instant totalement incapable de leur donner quoi que ce soit. Jésus, bébé, ne peut pas ressusciter Lazare, il guérit pas les lépreux, il change pas l'eau en vin. Jésus, bébé, il fait rien. Enfin, il sourit gentiment, il est très bien. Et ils comprennent que finalement, la plus grande lumière, on la trouve non pas quand on attend une grande lumière, mais quand on la donne. Parce que les mages, c'est merveilleux, que font-ils dès qu'ils rencontrent Jésus? Ils lui disent pas « Ah ben tiens, tu tombes bien, parce qu'on avait besoin de paix, et puis aussi d'espérance, et puis de confiance, et puis de force et de courage. » Les mages ne demandent rien à Jésus. Et ils ouvrent leur trésor. C'est eux qui donnent. Et ils donnent l'or, l'encens, la myrrhe. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils ouvrent leur trésor et ils donnent au Christ. Et c'est en donnant que l'on peut découvrir justement cette lumière extraordinaire qui illumine toute chose. Alors, on peut rentrer chez soi par un autre chemin. Jésus ne nous demande pas d'être fondamentalement différents de ce que nous sommes, mais de l'être différemment, d'habiter autrement sa propre vie, d'habiter autrement sa propre façon d'être. Et en effet, les mages retournent, ça aussi c'est curieux, ils auraient pu rester à adorer Jésus, ils retournent chez eux, et on n'entendra plus jamais parler d'eux dans tout l'évangile d'ailleurs, hein, plus jamais. Le but n'est pas de garder ses yeux continuellement vers la lumière éclatante, éblouissante du Christ, mais c'est d'utiliser cette lumière, cette compréhension de quelque chose qui change la vie pour revisiter intelligemment sa propre existence, pour la repenser, la réinterpréter avec une lumière différente, et ça change tout. Donc oui, mes amis, frères et sœurs, certainement, une grande lumière est apparue et est présente dans le Christ. Pour le découvrir, il y a encore tout un chemin à faire, et pour cela, il faut s'attacher à ces petits points de lumière, mais qu'en tout cas, il y a là la plus grande lumière qui peut illuminer toute votre vie et qui peut accomplir toute l'attente, toutes les attentes que vous pouvez avoir et toutes les attentes qu'avait le peuple juif à l'égard du Messie, qui viennent accomplir les promesses de Dieu de nous donner la paix, l'amour, la plénitude, la fraternité, la tranquillité et la vie pour l'éternité. Amen.